Nous allons ouvrir ensemble un passage dans la Bible. Alors, avant, je pars en vacances, on avait fait 2 semaines dans Exode 34. Nous allons rester encore ce matin dans Exode chapitre 34. Mais en même temps, gardons en tête tout ce que nous avons déjà entendu et vécu dans ce temps de louange ce matin sur la sainteté de Dieu, sur la majesté de Dieu, et que cela donc forme l'arrière-plan pour ce que nous allons regarder ce matin dans ce passage, donc d'Exode 34, les versets 1 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. » Donc, je me souviens, il y a quelques années, je suis allé écouter un orateur qui disait que un de ses passages préférés de la Bible, c'était donc Genèse chapitre 1, donc l'histoire de la création. Mais en particulier, ce qu'il aimait le plus, c'était Genèse chapitre 1, verset 2, qui peut surprendre. puisque Genèse 1, verset 2 dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde parmi nous ce matin qui citerait Genèse 1, verset 2 comme leur passage préféré de la Bible. Mais en fait, donc, lui qui était donc traducteur de la Bible, il disait que ce qu'il aimait dans ce verset, c'est, bon, là où en français c'est traduit « informe et vide », c'est une expression en hébreu « tohu bohu » qui veut dire « tout est sens dessus dessous », c'est le chaos, c'est « tout est désordonné ». Et donc, il disait que lui, il appréciait particulièrement ce verset parce que ça montre que Dieu n'est pas là, uniquement là où tout est parfait, uniquement là où tout est dans l'ordre, mais que justement, dès le début, Dieu est à l'œuvre et se met à l'œuvre là où tout est chaotique, là où il n'y a pas d'ordre, là où tout semble être sens dessus-dessous. Dieu, au lieu de se garder éloigné, est justement à l'œuvre dans cet endroit-là. Et donc, il disait qu'il trouvait ce verset vraiment encourageant pour toutes les situations chaotiques qu'on peut connaître dans la vie, puisque ça nous montre que Dieu, au lieu de s'en laver les mains et de s'éloigner, justement se met à l'œuvre dans ces situations-là. Et en lisant Exode 34, j'ai trouvé que il y avait un message similaire dans ce passage. C'est pour ça que j'ai choisi comme partie principale de titre « Dieu fait avec ». Parfois, on peut imaginer que pour Dieu, tout doit être parfait, tout doit être le meilleur. Et effectivement, il y a une réalité, une vérité dans le fait qu'on n'offre pas à Dieu tout ce qui traîne, les dernières parties de ce qui nous reste, la dernière partie de nos biens, de notre argent, de notre temps, en disant à Dieu, bon, voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça, donc je te le donne. On doit effectivement donner ce qu'on a du meilleur à Dieu comme offrande volontaire, mais en même temps, Dieu ne s'éloigne pas des situations imparfaites. Au contraire, c'est là qu'il se met à l'œuvre. Et donc, Dieu, au lieu d'exiger la perfection pour pouvoir venir s'installer et faire quelque chose, Dieu nous prend tel que nous sommes. Dieu fait avec. Et puis donc, dans sa grâce, il produit des merveilles avec tous ces ingrédients imparfaits qu'il trouve dans nos vies et dans nos situations. Donc, Dieu, dans ce passage d'Exode 34, Dieu venait peu avant d'exaucer les prières d'Israël. Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre 34, Dieu commence par dire à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières. » Pourquoi Dieu est-il obligé de dire ça à Moïse? Parce que finalement, il y avait eu ce moment glorieux où Dieu avait donné à Moïse des tables taillées dans la pierre avec l'écriture de Dieu dessus, donnant les commandements à son peuple. Et quand Moïse a rencontré la situation dans le camp, il les a cassées. Mais Dieu, ici donc, recommence son œuvre, il fait avec ce peuple imparfait et donc il montre sa grâce envers Israël. Dieu avait exaucé les prières d'Israël lorsque le peuple était en Égypte, donc début du livre d'Exode, on trouve le peuple d'Israël en esclavage en Égypte qui crie vers l'Éternel et Dieu donc, lorsqu'il appelle Moïse, pour être son serviteur, pour conduire le peuple hors d'Égypte, il dit « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Dieu a exaucé leur prière. Pendant des années, ils crient vers Dieu en demandant à Dieu d'intervenir pour les libérer de cet esclavage en Égypte. Et Dieu le fait. Il l'a fait même de manière miraculeuse. D'abord par les plaies contre les Égyptiens. Toute cette série de plaies qu'il envoie pour montrer aux Égyptiens, pour montrer à Pharaon que c'est lui le seul vrai Dieu, que c'est lui le Tout-Puissant, et pour forcer la main de Pharaon, pour permettre aux Israélites de quitter le pays d'Égypte. Donc il y avait toutes ces plaies miraculeuses. Puis, une fois que donc, ces plaies, et surtout la dernière plaie donc, de la mort des premiers-nés, pousse Pharaon à donner la permission aux Israélites de partir, bah, après, quand il a des regrets et qu'il envoie l'armée égyptienne contre les Israélites, et il se trouve pris entre l'armée égyptienne et la mer, bah, Dieu intervient de manière miraculeuse à nouveau en séparant les eaux de la mer pour que Israël puisse traverser, et puis en faisant revenir les eaux par-dessus l'armée égyptienne une fois que l'armée essaie de poursuivre le peuple d'Israël. On pourrait imaginer que, ben, après avoir vécu de telles réponses à la prière, de tels miracles, ben, le peuple soit entièrement consacré à Dieu et reconnaisse vraiment à quel point ils sont privilégiés d'avoir Dieu comme leur Dieu, ce Dieu qui est capable de faire de telles choses. Puis après cela, une fois qu'ils ont traversé la mer, ben, la Bible nous dit que Dieu conduit Israël tous les jours par la colonne de feu et par la colonne de nuée pour d'une part les protéger, d'autre part les guider, d'autre part leur donner les conditions parfaites pour leur voyage. Puis si ça ne suffisait pas, dans le chapitre 19, il propose d'établir une alliance avec le peuple d'Israël, Exode chapitre 19, verset 4, Dieu dit aux Israélites, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai emmené vers moi. » Effectivement, ah oui, là, vraiment Dieu a agi de manière impressionnante en faveur de ce peuple d'Israël. Il leur a montré son amour pour eux et à quel point il se tient à eux, obligatoirement, ils vont répondre. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu dit, je propose de faire une alliance avec vous. Toute la terre est à moi, donc toutes les nations sont à moi, tous les peuples sont à moi, mais je suis prêt à vous reconnaître comme mon peuple particulier parmi toutes les autres nations de la terre et de vous donner des bénédictions particulières. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, une nation mise à part pour moi, une nation qui m'appartienne particulièrement, qui est à moi, qui est en relation particulière avec moi parmi toutes les nations de la terre, et donc qui m'appartient particulièrement. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, quelle bénédiction, n'est-ce pas, d'appartenir à ce peuple choisi par Dieu. Et donc, par la suite, Dieu révèle les 10 commandements sur des tables de pierre. Donc, en Exode 32, verset 15, Moïse retourna, descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Vous imaginez, bon, nous, lorsqu'on ouvre la Bible, on dit avec raison que c'est la parole de Dieu, Mais en même temps, la Bible que nous avons, c'est l'œuvre d'un imprimeur ou c'est l'œuvre d'un informaticien qui a programmé ça pour apparaître dans nos téléphones. Ici, Dieu se révèle au peuple en leur donnant des tables de pierre qu'il a taillées lui-même, sur lesquelles il a écrit lui-même les règles de vie pour tous ceux qui appartiennent, tous ceux qui ont ce privilège de faire partie de son peuple. Il leur concrétise donc cette alliance qu'il propose avec eux. Mais comment est-ce que Israël répond à toutes ces bénédictions? Pas de la manière qu'on imaginerait, mais d'une manière, si on est honnête, tout à fait humaine, n'est-ce pas? Parce que là, nous aussi, trop souvent, face à tout ce que Dieu a fait pour nous, est-ce que notre réaction est toujours à la hauteur des bénédictions que Dieu nous a montré? Et donc, Dieu, tout en donnant ses bénédictions au peuple, tout en concrétisant cette alliance avec Moïse, lorsqu'il lui donne les tables de la loi écrites des deux côtés, il dit à Moïse, il y a juste un petit problème, il va falloir maintenant que tu redescends de la montagne, parce qu'au lieu de se donner à moi et de me louer, le peuple est déjà en train de se rebeller, est déjà en train de pratiquer à nouveau l'idolâtrie dans le camp de mon peuple. Ce peuple que je viens de faire sortir d'Égypte, que je viens de faire traverser la mer, que je viens de sauver de l'armée, que je viens de reconnaître comme mon peuple. Ce peuple est en train de se rebeller contre moi. Donc toujours dans Exode 32, donc même chapitre où donc Dieu donne les tables de la loi à Moïse, dans les versets 7 à 9, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et ils se sont prosternés devant lui, et lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple aux courettes. Donc, un peuple qui se plie difficilement devant l'autorité de Dieu, un peuple orgueilleux, qui s'imaginent capables de faire eux-mêmes leur destinée et leur Dieu. Et donc, lorsque Moïse apprend cela, lorsqu'il descend, lorsqu'il entend le bruit dans le camp, Moïse s'énerve au point de jeter les tables de pierre par terre et de les briser, donc en les jetant par terre. Chapitre 32, toujours verset 19. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Est-ce qu'on peut imaginer une situation plus chaotique, plus sans dessus-dessous par rapport à ce qu'on devrait imaginer? Ce peuple qui a reçu toutes ces bénédictions de la part de Dieu, qui a reçu l'exaucement de ses prières, qui a été protégé, qui a reçu l'offre d'une alliance avec ce Dieu qui vient de se montrer au-dessus de toutes les idoles, de toutes les autres divinités qu'on adorait autour d'eux, il se trouve maintenant avec un peuple rebelle qui produit une idole, qui adore l'idole, avec un chef de ce peuple qui, au lieu de se dire, ah ben là j'ai entre les mains la parole véritable de Dieu, écrite par Dieu sur des tables, donnée par Dieu, qui s'énerve et donc qui les balance par terre et les casse, Dieu se trouve donc dans cette situation tout à fait chaotique, mais justement, au lieu de dire, bon, bah, si vous êtes comme ça, c'est pas grave, j'irai choisir les Luxembourgeois ou quelqu'un d'autre, mon peuple, pour moi, bah, Dieu révèle sa grâce envers le peuple en renouvelant son offre d'alliance avec ce peuple, pile à ce moment-là. Vous imaginez la situation tellement chaotique, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, bah, va tailler deux tables de pierre comme les premières. Et verset 10, voici, je traite une alliance avec vous et je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Justement, dans cette situation, on ne peut plus chaotique, on ne peut plus éloigné de ce qu'on imagine être la perfection de ce que devrait être la situation vu ce que Dieu vient de faire. Dieu dit, bon, recommençons encore une fois. Reprenons les choses du début. Et donc Dieu propose de réécrire le fondement de cette alliance à nouveau sur des tables de pierre. Alors, effectivement, il y a des conséquences de leurs actes. La première fois, c'est Dieu qui a taillé la pierre. On a lu dans le chapitre 32, les tables de pierre étaient l'œuvre de Dieu, écrites des deux côtés par la main de Dieu. Cette fois-ci, Dieu dit, bon, bah, écoute, Moïse, toi, tu t'es énervé et tu as cassé les tables de pierre que je t'avais données par terre. Donc, cette fois-ci, c'est toi qui vas faire le travail. C'est toi qui vas tailler les tables de pierre. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que, effectivement, dans sa grâce, Dieu pardonne le péché. Il agit et il revient et dit, bon, reprenons, recommençons, on va rétablir les choses, mais il y aura tout de même des conséquences à ce que tu as fait. On le voit aussi dans la vie de David. Lorsque David commet l'adultère avec Bathsheba, Dieu le pardonne. Dieu même lui donne plus tard cette épithète comme quoi il est un homme d'après le cœur de Dieu. Et tous les autres rois plus tard sont jugés vis-à-vis de l'image de David. Mais en même temps, Dieu laisse David vivre avec les conséquences de ce qu'il a fait. L'enfant qui naît de la relation avec Bathsheba meurt. À partir de là, il y a des rébellions à tous les niveaux dans sa famille, avec ses enfants qui ont l'air de se dire, bon, bah, si lui, il peut se comporter comme ça, bah, nous aussi, on peut se comporter comme on veut, avec la viol d'une de ses filles par un de ses fils, avec le meurtre d'un de ses fils par un autre, avec des rébellions constantes de différents fils qui veulent prendre la place de leur père. Cet acte déclenche toute une suite de conséquences à ce qu'il a fait. Et là, Dieu le laisse vivre dans ses conséquences, mais en même temps, il le pardonne pour ce qu'il a fait. Et donc, Dieu pardonne le peuple d'Israël, propose de renouveler cette alliance, mais il dit à Moïse, « Bon, cette fois-ci, c'est toi qui vas tailler les pierres, mais... » Dans ma grâce, je vais quand même réécrire les commandements sur cette pierre que tu m'apportes. Je vais quand même faire une alliance avec vous. Et c'est justement dans cette situation chaotique, c'est dans ce cas de figure-là que Dieu se révèle comme le Dieu miséricordieux et compatissant. Déjà, on trouve... merveilleux, les paroles où l'Éternel se révèle à Moïse en disant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » On dit « Mais quelle révélation magnifique que Dieu se montre avoir cette nature à son peuple. Mais souvent, on oublie le contexte. On imagine que bon, ça doit être forcément dans un grand moment de louange que Dieu se révèle de cette nature, que Dieu donne une telle révélation. Mais au contraire, c'est en plein milieu d'une rébellion de son peuple, dans le chaos total où le peuple est en train d'adorer une idole, où Moïse a cassé les tables de pierre que Dieu lui a données. C'est là que Dieu lui donne cette révélation merveilleuse de sa personne et qu'il dit « Voici qui je suis. Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Ça donne un autre niveau de compréhension de comment ça a dû résonner dans l'oreille de Moïse lorsqu'il entend ça à ce moment-là. Moïse qui était tellement énervé contre le peuple qu'il a cassé les pierres de la loi par terre, il entend, bon, écoute, on va reprendre, parce que moi je suis un Dieu miséricordieux et compatissant. Je suis lent à la colère et riche en bonté. Oui, il y a des conséquences. Mais même dans cette situation-là, je suis prêt à reprendre du début. Je suis prêt à réécrire les paroles de mon alliance sur ces tables de pierre que tu vas m'apporter. Je suis prêt à traiter une alliance avec vous, même dans cette situation-là, même dans ce chaos que vous venez de créer dans une situation où, au contraire, tout aurait dû couler de source, tout aurait dû être une réaction naturelle d'amour face à ce que j'avais fait pour vous. Je suis un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, qui souhaite à nouveau établir une relation, une alliance avec vous. Et Dieu agit de la même sorte à maintes reprises dans l'histoire d'Israël. Lorsqu'on regarde le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ils sont loin d'être parfaits. Ils sont loin d'être à l'image de ce qu'on voudrait imposer sur eux comme image du peuple de Dieu. Ils sont finalement trop comme nous. Mais Dieu révèle sa grâce et sa fidélité tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, malgré leurs imperfections, malgré leurs infidélités, ce peuple reçoit le rôle d'être les ambassadeurs de Dieu sur la terre, d'être ce peuple mis à part parmi toutes les autres nations de la terre, de devenir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et malgré toutes leurs imperfections, malgré toute leur rébellion, Dieu est revenu à chaque fois vers eux et les a bénis avec des bénédictions incroyables. Comme Paul le souligne en début de Romains chapitre 9, quand il parle de ces Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Au lieu de s'en laver les mains et de dire, bon, bah écoutez, là, vous poussez le bouchon trop loin, je ne veux plus rien avoir à vous faire avec vous. Dieu fait avec. Il dit, je reconnais à quel point vous êtes imparfait. À quel point vous êtes éloigné du modèle que je voudrais. Mais si vous êtes prêt à revenir à moi, moi je suis ce Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui est prêt à recommencer à nouveau avec vous et à vous faire grâce. Et même là, même après tout ce qu'ils ont pu faire depuis tous ces siècles, la Bible nous dit que là encore, ces compassions ne sont toujours pas à leur terme. C'est ce que déjà Jérémie pouvait constater dans ses lamentations, lorsqu'il voyait l'état de Jérusalem qui avait été démoli, brûlé, comme punition, comme acte de discipline contre ce peuple au moment de l'exil. Jérémie peut regarder tout cela et dit, mais quand même, je m'encourage avec la pensée que même là, ces compassions ne sont pas à leur terme. La Bible nous dit que même encore aujourd'hui, ces compassions envers ce peuple ne sont pas à leur terme. Parce que Paul nous dit qu'il y aura ce moment où Dieu reviendra encore une fois vers son peuple, montrera sa fidélité, montrera sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, en les conduisant à Christ, à reconnaître Christ comme leur Messie, lorsque Jésus reviendra intervenir dans cette bataille de Jérusalem à la fin des temps. Donc Dieu est miséricordieux et fait grâce au peuple d'Israël, tout comme il reste ce même Dieu qui s'est révélé à Moïse pour nous aussi. Il nous montre la même grâce qu'il a montrée au peuple d'Israël. Pour ça, c'est inutile d'essayer d'effacer tous les aspects imparfaits dans la Bible. Parce que, si nous sommes honnêtes, nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple d'Israël dans la Bible, et que nous avons tout autant besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et donc, savoir que Dieu montre sa grâce au peuple d'Israël, justement dans toutes ces situations chaotiques, toutes ces situations qui sont loin d'être l'image de ce que Dieu voudrait pour son peuple, cela nous encourage. Parce que ça nous montre que Dieu est un Dieu qui justement travaille et revient dans les chaos parfois de notre vie pour rétablir cette relation avec nous, pour recommencer et pour dire « bon, on va faire avec, on va prendre ce qu'on a en main et on va produire des transformations ». À partir de là, on va essayer de transformer la situation avec ce qu'on a, non pas avec ce qu'on aimerait avoir. Et heureusement donc, parce que nos vies sont souvent loin d'être parfaites aussi. On le voit parmi les chrétiens du Nouveau Testament. Parfois là aussi, on a une image très naïve de ces chrétiens, un peu comme on a une image souvent naïve du peuple d'Israël, les chrétiens du Nouveau Testament, ils étaient eux aussi, comme nous. Leur vie aussi était tout aussi chaotique, tout aussi éloignée de ce que Dieu avait prévu. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et puis, une phrase très révélateur, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Ça veut dire que dans l'église de Corinthe, il se trouve des personnes qui étaient débauchées, qui étaient idolâtres, qui étaient adultères, qui étaient efféminées, qui étaient homosexuels, qui étaient voleurs, qui étaient cupides, qui étaient ivrognes, qui étaient outrageux, qui étaient ravisseurs. Et dans cette partie d'1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul est en train de dire, bon, Dieu justement ne vous a pas rejeté, refusé parce que vous étiez tout ça. Il est venu malgré le fait que vous étiez débauché, idolâtre, adultère, etc. Il dit le but de Dieu en venant par contre n'est pas que vous continuez à vivre là-dedans, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oh, Dieu, malgré tout, dans sa compassion, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il est venu dans votre situation de débauche, d'idolâtrie, d'adultère, d'homosexualité, de vol, de cupidité, d'ivrognerie, etc. Et il vous lave, il vous sanctifie, il vous justifie pour que vous deveniez autre chose. Il vient œuvrer dans ces situations-là parce qu'il veut transformer ces situations-là pour que vous deveniez un peuple saint, un peuple saint, un peuple mis à part pour lui. Donc, Dieu accepte de travailler, non pas lorsque la situation est parfaite, mais il accepte de travailler avec ce qu'on veut lui confier, avec ce qu'on peut lui donner. Ce n'est pas la perfection qu'il demande pour pouvoir œuvrer. C'est simplement un cœur ouvert, un cœur qui reconnaît à quel point on a été éloigné du modèle de ce que Dieu voulait pour nous. Exode 34, le peuple était loin de ce que Dieu décrivait sur les tables de la loi qu'il venait de donner à Moïse, qui commence justement par « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi, tu ne feras pas d'idole en métal ou autre chose ». Et pile à ce moment-là, bah, qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Le peuple est un peuple idolâtre qui a d'autres dieux que l'Éternel, qui a fabriqué des idoles, qui adore cette idole. Mais Dieu revient en disant, bon, là vous êtes l'inverse du modèle que j'ai donné pour mon peuple, mais si vous revenez à moi, si vous êtes prêts à vous donner à moi, on peut quand même en faire quelque chose. Je peux quand même en faire la nation sainte qui me représentera parmi toutes les autres nations de la terre. Je peux quand même faire de vous le peuple par qui viendra le Messie, l'objet ultime de mon plan du salut pour le monde entier. Tout ce qu'il faut, c'est me laisser œuvrer parmi vous. Alors certes, cette grâce de Dieu, le fait que Dieu travaille là, dans l'imperfection, n'est pas une excuse pour maintenir nos imperfections. Vous dites, bon, bah, puisque Dieu travaille dans les imperfections, ça veut dire que si je continue à être imparfait, ben, il sera à l'œuvre dans ma vie. Dieu vient dans l'objectif de transformer nos imperfections, mais nos imperfections ne l'empêchent pas de venir proposer de travailler dans nos vies. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul justement s'adresse à cette question en parlant de la grâce de Dieu qui surabonde là où il y a du péché. Il dit, mais que dirons-nous donc? Est-ce que ça veut dire que nous pouvons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est ce qu'il a dit aussi aux Corinthiens. Il a dit, Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, est venu dans votre débauche, dans votre idolâtrie, dans votre adultère, etc. Mais, non pas dans le but que vous restiez ce que vous étiez, mais dans le but de vous laver, dans le but de vous sanctifier, dans le but de vous justifier. Un peu plus loin dans Romains 6, verset 15, il dit « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ?» Loin de là. Ce n'est pas donc une excuse pour nous maintenir dans nos imperfections, mais c'est donc un encouragement de savoir que même si on a été loin de l'objectif de Dieu, Dieu peut encore œuvrer dans notre vie si nous ouvrons notre cœur à lui. Vouloir rester dans nos imperfections, abuser de la grâce de Dieu serait plutôt le signe d'un cœur qui n'est pas ouvert à l'œuvre de Dieu, qui ne veut pas répondre à ce retour miséricordieux de Dieu disant « Malgré votre imperfection, recommençons, reprenons là où nous étions, retravaillons dans l'objectif qu'on s'était donné. » Ça nous donne confiance que ce changement, état lavé, cette sanctification, cette justification n'est pas la condition de Dieu pour venir vers nous œuvrer, mais c'est plutôt le résultat de l'œuvre de Dieu dans notre vie si on lui confie notre vie imparfaite. L'ennemi va venir essayer de couper définitivement cette relation entre nous et Dieu en disant « Ah là, tu as été trop loin. » Il ne faut pas imaginer que Dieu va revenir maintenant. Il ne faut pas imaginer qu'ayant fait ça, Dieu peut encore faire quelque chose avec toi, c'est fini. Israël est la preuve qu'au contraire. Même en tant que peuple de Dieu, on a pu devenir l'opposé de ce que Dieu veut, et c'est toujours pas trop tard. Tant qu'on est prêt à nous repentir et venir à lui, et répondre à ce Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui dit, bon, reprenons les choses. Reprenons cette alliance. Il n'est jamais trop tard pour lui confier le droit d'œuvrer dans notre vie. C'est ce que Jésus, en Matthieu 20, souligne dans la parabole des ouvriers, où il y a donc des ouvriers qui sont là depuis le début, il y en a qui viennent tout à la fin, et qui pourtant reçoivent la même récompense à la fin que ceux qui étaient là depuis le début. C'est aussi un peu la morale de l'histoire du fils prodigue. Le frère aîné qui dit « Oh ben c'est trop injuste. Moi je suis fidèle, j'ai été bon, j'ai fait tout ce qu'il faut depuis le début, et lui, il a tout gaspillé, et maintenant, alors qu'il n'a plus aucun autre espoir, il revient et il est traité comme moi. » Dieu, dans sa grâce, heureusement pour nous, fait toujours ça, si nous sommes prêts à revenir à lui et à lui donner le droit d'œuvrer dans notre chaos pour transformer notre chaos et nos situations de vie pour devenir à sa gloire. Dans le Nouveau Testament, une des plus graves avertissements, ce n'est pas qu'en faisant telle ou telle chose, on risque de pécher au-delà de la grâce de Dieu. Un des plus graves avertissements dans le Nouveau Testament, c'est le risque de rendre vaine la grâce de Dieu. La Bible dit « Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Ne condamnez pas sa grâce en le rendant vaine dans votre vie, mais permettez à sa grâce d'œuvrer dans votre vie. Revenez à ce Dieu, acceptez l'offre de ce Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui dit « Voilà ». Vous avez fait l'inverse, mais je traite une alliance avec vous et je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Il a beaucoup été question dans notre temps de louange ce matin de la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint qui désire un peuple saint. Mais ce Dieu saint est un Dieu aussi miséricordieux, qui dit ce que je veux, c'est apporter ma sainteté au sein de votre chaos, de vos situations tellement éloignées de ce qui semblerait être la sainteté. Quelle que soit notre situation de vie, profitons encore aujourd'hui de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de ce Dieu qui s'est révélé dans cette parole, non pas pour continuer. La Bible nous dit que nous sommes, si on est un peuple saint, on appartient à Dieu. Ça veut dire que Dieu veut devenir le propriétaire de toute notre vie. Vous savez, il y a une grande différence entre être propriétaire et être locataire. Quand on loue une voiture, par exemple, on a l'usage pendant un certain temps, mais le reste du temps, ce n'est pas à nous. Si vous prenez un des vélos en face, vous avez l'usage jusqu'à ce que vous le mettez sur la borne suivante, mais vous n'avez pas le droit de le garder à la maison et dire que maintenant c'est à moi. Dieu, il ne veut pas notre vie en location le dimanche matin. Il veut sa sainteté dans toute notre vie. Il veut que toute la semaine, notre vie lui appartienne. Il veut venir travailler dans tout le chaos. Il ne veut pas la petite vie chrétienne parfaite du dimanche matin, et puis après que on reprend les droits sur notre vie dès qu'on quitte ces lieux. Il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il veut établir un peuple saint, mais il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations pour faire de nous un peuple saint. N'écoutons pas la voix de l'ennemi qui chercherait à nous éloigner à tout jamais. Écoutons plutôt la voix du Dieu qui dit, bon, ça n'a pas très bien marché jusqu'à là, mais taille encore deux tables de pierre comme les premières. Et on va reprendre. Je vais écrire à nouveau. Je vais à nouveau faire alliance avec vous. Et je vais faire ces miracles à travers vous. Que donc à chaque instant où le chaos cherche à se rétablir dans notre vie, on aura sans doute des conséquences avec lesquelles il faut vivre, mais venons à ce Dieu qui vient vers nous et qui propose de reprendre les choses, qui propose de faire avec ce qu'on est prêt à lui donner, ce qui nous reste à lui donner. Laissons Dieu produire des transformations avec ces situations-là. Je propose qu'on prie quelques instants. Laissons l'Esprit de Dieu écrire justement sa parole sur nos cœurs. L'avantage de ma position ici, c'est que je ne sais pas tout. D'ailleurs, n'ai pas besoin de tout savoir. Mais Dieu, il voit tout. Il sait tout. Il voit ce que moi je ne vois pas, ce que nos autres frères et sœurs ne voient pas. Il sait ce que nos autres frères et sœurs ne savent pas. Et malgré ce qu'il sait, malgré ce qu'il voit, il dit, voilà, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce matin donc, Peut-être vous passez par un moment de chaos dans votre vie. Dieu le sait déjà. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dit bon. Malgré le fait que c'est le souk total, que les tables de pierre sont cassées par terre, ce n'est pas grave. Allons, taille encore deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai à nouveau les paroles qui étaient sur les premières pierres que tu as brisées. Si donc ce matin, cette situation ressemble à ta vie, je t'encourage vraiment à répondre positivement à la grâce que Dieu est prêt à faire. N'hésite pas dans ton cœur de te mettre à la place d'Israël et de simplement dire à l'Éternel merci de qui tu es. Merci de ce que mes chaos, mes imperfections ne t'éloignent pas à tout jamais, mais que tu es ce Dieu prêt à revenir encore une fois, tendre encore une fois la main, tenter encore une fois de faire cette alliance, tenter à nouveau d'accomplir ton œuvre, de faire de moi ce peuple saint pour toi. Je te consacre ma vie. Je te donne cette situation avec cette confiance que tu me laves, que tu me sanctifies, que tu me justifies pour que cette situation devienne en quelque sorte un fait divers du passé comme l'idole, le veau d'or est devenu pour le peuple d'Israël. Le Seigneur qui est miséricordieux et compatissant accomplira ce qui est normal pour sa nature s'il voit un cœur prêt à collaborer avec lui.